RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Carrière dorée. Bonjour à tous. Content de vous retrouver pour une semaine de discussion et de débat, une semaine de GG, de grande gueule en direct sur RMC, la radio et RMC Story, la télé. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Pour démarrer la semaine, Charles Consigny, l'avocat, est là. Bonjour mon cher Charles.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire. Bonjour Didier.
Salut Alain et bonjour à la France profonde.
Et puis nous sommes avec Joël Dagosséry, la coach de vie. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous.
Quelle saison à Joël?
Bah non, je suis très heureuse de commencer la semaine avec vous.
Non, bah, commencer c'est... la semaine sous la flotte, en revanche,
oui, ça c'est autre chose,
obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire?
Il en fallait.
Ah bon?
Il fallait un peu d'eau, les gars. Bien beau la bronzette, mais il fallait un peu d'eau.
Je te rappelle que
c'est les saintes glaces.
Oui, je te rappelle Didier que tu me dois quand même un canon.
Ouais.
Parce que tu avais parié sur la défaite de Paris la semaine dernière face
la
aux Allemands.
La non-qualification, j'avais dit.
La non-qualification. Tu étais très pessimiste.
Mais comme ils n'ont pas gagné.
Et pour la finale, qu'est-ce que tu vois pour la finale?
Un match serré.
Ouais, merci. Ouais, voilà. Prends moins de risques. Merci Didier.
Non mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire les Parisiens.
Allez. On va s'intéresser à l'antavirus. Vous me direz pourquoi? Ben parce qu'on a une Française qui est positive. On a 22 cas contacts en France et même 3 Français qui viennent de partir à l'isolement. Le gouvernement va enchaîner les réunions autour de Sébastien Lecornu, de la ministre de la Santé. Ça commence même dès cet après-midi. Est-ce que vous faites confiance aux autorités? C'est au 32-16 que ça se passe.
De ce soir minuit, le confinement sera décrété sur l'ensemble du territoire français.
Ah bah non, quand même pas.
Bon, on n'en est pas à l'alerte générale quand même, mais il faut regarder attentivement ce qui est en train de se passer dans le pays avec cette Française qui a été testée positive et 5 passagers qui a contact placés en isolement.
Bah, elle fait partie des 5 passagers. Hein. C'est l'un des 5 Français qui ont été rapatriés hier par avion. Son état, en fait, ils sont à l'hôpital à Bichat et elle, son état s'est dégradé cette nuit. Donc elle va rester bien sûr hospitalisée. Les autres restent hospitalisés pour quelques jours, le temps de faire des tests. Et ensuite, c'est ce que prévoit le protocole qui a été mis en place, ils vont partir à l'auto-isolement pendant 42 jours. Pourquoi 42 jours? Parce qu'avec
isolé
ce virus,
dans une voiture, c'est ça?
Parce qu'avec ce virus, c'est jusqu'à 6 semaines d'incubation. C'est plus long que le Covid. Et puis c'est un virus plus mortel que le Covid. Donc l'auto-isolement. Alors on peut s'interroger pourquoi pas les garder carrément 42 jours à l'hôpital ou dans un endroit vraiment confiné, parce que là ils vont rentrer chez eux, bah, ils ont sans doute de la famille, etc. Ils auront le droit quand même de sortir un peu. Enfin, puis ça sera pas forcément contrôlé. Bref, un protocole qui semble un peu léger. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont certains spécialistes qui ont été interrogés. En tout cas, aujourd'hui, il y a 8 cas dans le monde et l'un des cas est français. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est à la hauteur? Il vous rassure? Alors, il multiplie les annonces de réunions. Ça en fait de la com sur les réunions. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, était ce matin chez nous pour en parler. On nous dit que les masques sont là, contrairement à la dernière fois. Ça y est, on a des masques. Est-ce que vous êtes rassuré,
Joël?
Écoute, moi j'ai encore 2 boîtes de masques à la maison.
Ils sont peut-être périmés.
Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais peut-être qu'il va falloir les ressortir ou aller s'en fournir assez rapidement. Parce que si tout le monde se rue dans les pharmacies pour aller acheter ses masques, ça va être compliqué. Je ne m'inquiète pas encore sur le plan de la santé. Je commence déjà à m'inquiéter sur le plan politique. Parce que je vois que c'est branle-bas de combat. Je vois qu'on parle on va bientôt nous parler de comités scientifiques à l'Élysée, etc. Donc j'ai peur que ce virus vienne étouffer tous les sujets qui jusqu'ici nous occupaient de pouvoir d'achat, d'emploi, de sécurité, et qu'on se concentre à nouveau sur un virus. En tout cas, que les politiques se concentrent à nouveau sur ce virus et pour paraître très proactif, l'état protection. Donc jusqu'où ça va aller cet état protection? Donc j'ai un peu peur de ce qui va se passer sur le plan politique, un peu moins sur le plan sanitaire. Après, pour le sanitaire, c'est un virus que personnellement je n'avais jamais entendu parler. Donc je vais attendre tranquillement ce que les médecins de plateau, et d'ailleurs parce que je pense que les plateaux vont maintenant être remplis de 10 millions de médecins experts maintenant en antivirus. Donc j'attends de voir ce qu'on va nous dire, mais je regarde attentivement les réactions politiques de ce virus.
Charles ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations scientifiques particulières, si ce n'est que ce virus semble un petit peu moins contagieux que le Covid et un petit peu plus létal que le Covid.
38% de létalité, oui.
Bon. Ce qui est beaucoup, quand même.
Bah, c'est quand même pas mal.
C'est pas rassurant.
Dit comme ça.
Moi, j'aurais bon, le bateau.
Sachant que le bateau... tout le monde a été contaminé sur ce bateau. Je sais pas si on aurait dû laisser à cause
des. Il y a 22 cas contacts identifiés en plus des gens du bateau parce que ils ont pris l'avion.
C'est pas des malades.
Ils ont pris l'avion, etc. Non, cas contact, mais il faut aussi les.
Les surveiller. J'aurais dû couler le bateau.
Oui. Non, alerte, modération. Et quand c'est l'animateur en plus.
Elle a disparu, l'alerte.
Il faudrait peut-être la remettre très vite.
Comme par hasard.
À minima, on aurait dû le laisser au large. D'autant que, il y a quand même fort à parier que ce virus se répande. Surtout, effectivement, si on isole les gens, quand on sait, la responsabilité individuelle des gens qui, tu peux être sûr, dès demain vont aller s'acheter deux pains au chocolat.
Ils vont faire une brocante.
Et un pain complet en bas de chez eux avant de claquer la bise à leurs voisins. Bon, bah voilà. Donc écoutez, peut-être que nous vivons collectivement nos derniers mois d'existence et somme toute.
C'est dommage, on verra pas la présidentielle.
Qu'est-ce qu'on en a?
Bah, c'est peut-être une chance de pas voir la présidentielle.
On verra pas qui va gagner.
C'est salutaire de savoir. Didier.
Écoute, moi, comme les autres, j'écoute ce qui se dit. Globalement, un peu plus létal, un peu moins contagieux. J'ose espérer que les autorités sanitaires ont appris de leurs erreurs du Covid et encadre un peu plus strictement les. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas dans une épidémie de masse. 22 cas contacts, une personne de malade sur le territoire. On va peut-être arriver à juguler le truc.
Mais justement, pourquoi ces personnes-là, on les garde seulement 3 jours à l'hôpital? Pourquoi on les garde pas carrément?
Parce qu'on n'a pas appris de nos.
Je sais pas, dans une résidence, on les met 42 jours.
Je pense qu'on aurait pu rouvrir l'île du Frioul, quoi. Hein.
Non, mais sans. On les met trop mal.
On était les pestiférés, mais. Non, après, deux choses. Ça nous apprend quand même quelque chose sur l'origine du virus, c'est qu'il y a des endroits dans le monde où la bouffe est pas sécurisée. Voilà, c'est aussi ça que ça veut dire. Parce que la transmission, c'est par le rat et c'est par les déjections de rats sur des aliments. Voilà, c'est comme ça la transmission. Donc à un moment donné, ça nous apprend aussi quand même que quand on dépend du monde entier pour sa bouffe, il peut nous arriver quelques bricoles. Et puis la deuxième chose, moi, je vais bientôt tout éteindre les canaux d'information si les chaînes d'infos basculent
en édition spéciale
antivirus, parce qu'il y a une personne de malade sur les 70 millions de Français et 22 cas contacts, quoi. À un moment donné, quand Maud Bréjon dit il n'y a pas à s'inquiéter, tout le monde commence à s'inquiéter. Alors c'est peut-être parce que la parole des politiques.
Tu veux qu'on remette les choses quand même un peu d'équerre. Souviens-toi d'Agnès Buzyn,
ministre
de la Santé, qui nous expliquait que ce virus
c'était une grippette.
A très peu de chances de se propager dans la population. Il faut toujours être très prudent. Alors la différence, c'est que ce virus-là, on connaît.
Peut-être que le fait que le Covid est passé par là avec toutes ses conséquences, ça fait que les gens se comportent différemment aujourd'hui. Les politiques, non. Mais les scientifiques, les médecins et les patients, peut-être qu'ils se comporteront différemment.
Je crois que les personnes qui sont en auto-isolement vont vraiment le respecter en souvenir du Covid.
Ouais. Moi, j'ai quand même peur que les politiques fassent de l'hyper-réaction par rapport au Covid. Exactement, parce qu'il y avait une sorte de négligence. T'as raison avec Agnès Buzyn. Il y avait une sorte de négligence au début. Et j'ai peur que justement, comme tu dis, un malade, 22 cas contacts, que les politiques nous sortent le branle-bas de combat. Pour un très très peu de cas.
Si ça tue le poussin dans l'œuf, tant mieux.
Oui, j'entends voilà. bien, mais, non,
mais faut pas mieux que les bien. Politiques, ils en fassent des tonnes, et puis qu'on applique. Alors déjà l'auto-censure là, moi j'y crois pas. L'auto-isolement, j'y crois pas. Donc vaudrait mieux qu'on en fasse un peu plus et que les gens ils soient vraiment à l'isolement pour être sûr qu'il y ait plus de cas contact derrière et dans quel cas.
Oui, mais, dans 40 jours, c'est fini. Je suis d'accord avec ce que dit.
Bah, attends, on dit si on est sûr du temps d'incubation, les gens on les enferme de façon stricte sur l'enquête.
Retenir un truc du Covid, ce serait effectivement de faire un truc très strict, très radical dès le début pour tuer le truc dans l'œuf.
Surtout qu'il n'y a pas 10 millions de cas contacts aujourd'hui.
Si on est molasse, le truc va se répandre.
Oui, parce que par exemple, les 22 cas contacts,
il y en a 14. C'est des gens qui étaient dans l'avion avec des gens qui sont décédés, quoi. C'est quand même déjà un problème, là.
Il y en a 14 qui ne sont pas identifiés. D'ailleurs, la ministre Stéphanie Rist dit « Nous demandons à ces 14 passagers qu'ils nous contactent parce qu'il faut qu'on puisse renforcer l'isolement. »
C'est pas là.
Donc, on a déjà 14 qui, s'ils sont malades,
ont déjà contaminés. Les gens ont déjà fait 200.
Bah oui, bien sûr. Donc, en fait, alors je pense que c'est, le taux de contamination
est... Si en plus, ils sont évangélistes... C'est mal barré. Oh,
qu'est-ce qu'ils ont ? C'est la balle perdue.
Souviens-toi, le rassemblement évangéliste dans l'Est de la France.
C'est tout oublié. Hein.
C'est vrai.
On peut refaire l'histoire, on peut refaire le film. Hein. On sait comment ça se finit.
On a Christophe qui veut réagir, qui est commerçant, qui est dans le Var. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à tous. Bonjour à Didier. C'est vraiment une grande gueule que j'apprécie, pragmatique, bonjour, amateur de rugby, etc. Et bon paysan de la France profonde.
Oui, voilà. Gentil Christophe, ouais, merci.
Faut pas qu'il parie sur le foot.
Je pense que nos gouvernants, soit ils sont aveugles, soit ils n'ont pas de mémoire, soit ils sont simplement idiots. Voilà, excusez-moi ce terme, mais on n'a pas appris nos erreurs ou quoi ? On ne se rappelle pas du coronavirus. Moi, je pense que d'entrée, il vaut mieux mettre les choses au clair, carré, et isoler les gens. Du mieux qu'on peut, c'est-à-dire dans les hôpitaux et non pas un semi-isolement à domicile qui ne sera a priori pas respecté dans 90% des cas. Voilà. J'ai un fait historique, bon, à rappeler, ça va paraître extrême, mais la peste de 1720 à Marseille, elle vient d'où ? Elle vient du non-respect d'une quarantaine. Parce que pour des raisons mercantiles, parce qu'il y avait des marchandises à bord, voilà. Ouais, et donc, ils n'ont pas respecté la quarantaine, ça a donné l'épidémie de peste à Marseille. Voilà.
Bah, et puis ailleurs.
Donc là, si d'entrée, on met les choses au clair, carré, on met les gens à l'isolement, les cas contacts à l'isolement, on isole toute une population du mieux qu'on peut. C'est très simple à comprendre.
Bah, c'est surtout que c'est plus facile à faire quand il y en a 22 quand il y en a 3 millions, quoi.
Donc vous ne comptez pas vraiment, Christophe, sur la discipline de nos compatriotes, quoi, en fait, c'est ça.
Non, même s'ils veulent bien faire. Pas du tout sur la discipline de nos compatriotes. Ce qu'il faut, c'est le bâton, montrer le bâton pour taper, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est très clair.
Oui, parce que 42 jours, c'est
on les isole et on met en sécurité une population. Voilà. C'est facile à comprendre quand même, je sais pas moi. Un enfant de 5 ans comprendrait ça. Nos gouvernants, ils sont aussi bêtes que ça qu'ils ne comprennent pas ou ils sont têtus. Mais franchement.
Oui, mais Christophe, vous pensez pas que justement la population, compte tenu de ce qu'on a vécu pendant le Covid, ils vont être un peu plus rigoureux dans leur déplacement, dans leurs faits et gestes.
Non,
parce que regardez, pendant le Covid, au début, quand ils nous avaient dit faites attention, on est quand même tous partis se mettre en terrasse et du coup, pour nous punir, ils nous ont confinés. Et là, je pense.
Certains seront disciplinés, mais beaucoup ne le seront pas. On le sait, il y a eu les anti-vax, il y a eu tous ces trucs-là. Donc, à partir de là.
Ouais, c'est vrai, vous avez raison, Christophe.
Si on veut jouer aux idiots, bah, il faut faire les idiots.
Justement, la leçon du Covid, c'est que comme on n'a pas osé confiner uniquement les personnes qui étaient vraiment à risque et qui pouvaient mourir de ce virus, on a confiné toute la jeunesse française et maintenant on se plaint de la santé mentale de cette jeunesse. Ne refaisons pas les mêmes erreurs, il faut isoler ceux qui doivent être isolés. Effectivement, ces personnes, 42 jours d'isolement, ils ne vont pas en mourir.
Christophe,
tu fais tes 42 jours et puis tu reprends ta vie.
Ce qu'il y a surtout, c'est que...
Excusez-moi, il y a un truc très simple. On prend une balance, on met 22 personnes d'un côté de la balance et 70 millions de l'autre côté de la balance. Oui. Voilà, ça s'arrête là, c'est mathématique. Voilà, il faut isoler 22 personnes que 70 millions soient embêtés.
Le coup de gueule de Christophe, commerçant du côté du Lavandou. On a le directeur commercial Loïc qui est dans le Val-de-Marne qui est avec nous aussi. Bonjour Loïc.
Bonjour les grandes gueules.
Vous partagez la colère de Christophe ou pas ?
Déjà moi je la vis dans ma chair tous les jours hein, parce que je fais partie malheureusement de ceux qui ont enterré 2 personnes. En moins de 3 mois, de manière indirecte à cause du Covid. Ouais. Et moi-même, ça fait 4 ans que je vis avec une paralysie faciale aggravée qui est proche de l'AVC, que j'ai eu en effet secondaire. Et à l'époque, on m'a dit, oh, vous savez, c'est pas une preuve. Sauf que, Bégin quand même, je vis à côté.
En effet secondaire, pardon, en effet secondaire de quoi ? Du Covid ou du vaccin ?
du vaccin du contrôle Covid. Ouais. D'accord. J'ai eu un effet secondaire, c'est que ça a grillé une partie de mon visage, donc je porte toujours les stigmates. Faut revoir tout simplement, pour répondre à votre question, le super reportage qui a été fait sur Agnès Buzyn, qui envoyait des textos, vous savez, à Édouard Philippe et à Macron, disant oulala, c'est une catastrophe, en plus ça viendrait de Wuhan, et en plus on a des parts et on a des actions, nous, la France, là-dedans. Faites quelque chose, et on fout les masques, c'est terrible. Vous vous souvenez de cette époque-là et du reportage qui ont été faits? Deuxièmement, de manière très simple, pour répondre à votre question, est-ce qu'on déjà on a confiance envers la politique française pour gérer un budget? Bon, alors pour gérer une crise sanitaire qui demande des compétences supérieures, la réponse est donc la même. Je ne vais pas faire le même coup de gueule que notre Christophe. Ami Christophe avant, mais franchement, moi, de toute façon, cette classe politique me fait flipper. Dès qu'il décide quelque chose, j'ai presque peur aujourd'hui. J'avais peur pendant 20 ans, pendant que j'ai accompagné des petites entreprises, tellement je voyais la fiscalité partir à gauche, partir à droite, alors que moi et mes patrons, ils mettaient 8, 10 ans, 15 ans d'investissement. Ils avaient besoin de voir une ligne claire, et derrière, il y avait les gens derrière leur micro qui disaient blablabla, avec une fiscalité qui changeait tous les 4 matins. Donc, ouais, on n'a pas du tout confiance, de toute façon, en aucun politique. Moi, je fais partie des anciens LR. Je suis complètement orphelin politiquement. Je ne sais plus pour qui voter. Et je suis complètement paumé. Donc, et quand il arrive des trucs comme ça, j'ai qu'une peur, c'est qu'il fasse encore des conneries, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'il faut faire.
Bah, mon cher Loïc, vous et Christophe, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça commence bien.
Une défiance, hein, quand même. Hein.
On a posé la question sur les réseaux sociaux, Christophe et Loïc. On verra si vous êtes à l'image de nos compatriotes qui ont voté. Est-ce que le protocole sanitaire pour vous est à la hauteur? Non, pas du tout, à 75%. Voilà, c'est dit, c'est fait. Dans un instant, la hausse des carburants, on l'a encore constaté ce week-end, ça baisse pas vraiment à la pompe. En revanche, il y a des municipalités qui réagissent et qui baissent le titre de transport. C'est ce qui se fait à Laval, par exemple, jusqu'à fin août. Il y aura un ticket de bus à 50 centimes. Alors, est-ce que la solution, c'est de baisser les titres des transports, oui ou non, dans les villes? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Il est 9h25, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous suivez les GG, les grandes gueules, avec aujourd'hui Joël Dagosséry, la coach de vie, Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire, et Charles Consigny, l'avocat. On va s'intéresser à la réponse des pouvoirs publics, ou plutôt des collectivités locales, à la hausse des carburants. C'est la ville de Laval, hein, face à la flambée des prix du carburant, qui a décidé de réagir en disant il faut que les gens laissent la voiture pour prendre les transports en commun. Mais pour prendre les transports en commun, il faut leur faire une offre attractive. Et donc, ils ont décidé de passer le ticket de bus à 50 centimes d'euros.
Oui, c'est une première en France. C'est la première ville à décider de baisser d'une façon temporaire les tarifs des transports en commun. Alors, il faut savoir qu'à Laval, déjà, les transports en commun sont gratuits le week-end. Mais là, à partir d'aujourd'hui, le ticket de bus passe à 50 centimes au lieu de 1,30. Et le carnet de 10 tickets passe à 4 euros, soit 40 centimes le trajet. L'idée, c'est d'offrir une alternative abordable à la voiture pour des voyageurs qui aujourd'hui, sont comme tout le monde, étranglés par les hausses des prix à la pompe. Alors, c'est un coût, 150 000 euros, puisque l'opération est fixée jusqu'à fin août. 150 000 euros pour les caisses de la ville. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, c'est assez intéressant, parce que le gouvernement refuse de baisser les taxes. Là, finalement, c'est une ville qui fait un effort financier pour donner du pouvoir d'achat via les transports en commun à ses administrés.
32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Didier, c'est une bonne idée?
Écoute, oui, c'est une bonne idée. Après, il y a aussi des villes qui font le choix que ça soit gratuit. Donc, chaque municipalité est capable de faire un geste sur la gratuité ou le bas coût des transports en commun. Ce que je constate, c'est que ça résout pas tous les problèmes de carburant et de transport, quoi. Il faut avoir des transports. Encore faut-il en avoir, des transports en commun. Ça veut dire que donc t'es dans les villes plutôt au moins de taille moyenne, sinon les grandes villes en intramuros.
Chez toi, en Saône-et-Loire, c'est compliqué.
Ben, les transports en commun, voilà, il y en a dans les villes, quoi. Mais oui. En dehors des villes, tu peux pas. Et puis, ça résout pas tous les problèmes des artisans, des gens qui travaillent dans la ville et qui ont besoin d'un véhicule.
Pardon, mais tu dis gratuité, c'est pas gratuit, il y a quelqu'un qui paye.
Non, mais quand je dis gratuité, c'est une façon de c'est une façon de, d'utiliser correctement nos impôts, je pourrais dire. Dans la gratuité des transports.
Oui, c'est une redistribution des impôts.
Oui, c'est-à-dire voilà,
toi,
c'est
si
ça.
Je prends jamais les transports en commun, tu payes pour ça.
Ben, je paye des impôts pour. Mais voilà, après.
Là, t'en payes un peu
non,
plus.
Non, mais je veux bien croire que temporairement, si Laval, c'est un coup de pouce.
Le maire de Laval augmente les impôts. Si le maire de Laval augmente les impôts l'année
250
prochaine,
000 euros, bah,
il ne pourra pas dire que ça a été gratuit. Voilà.
Non, mais voilà. Il y a ça, mais il y a le fait que une des problématiques de la hausse du coût des carburants, c'est que ça a un impact sur tous les produits manufacturés, sur tous les produits de consommation, parce que chacun a du transport et de l'emballage et du packaging avec du plastique. C'est là où ça a un vrai coût. Et puis, il y a tous les gens qui n'ont pas dans leur coût de transport du transport en commun. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait sur le train du quotidien? Qu'est-ce qu'on fait sur le bus rural? Qu'est-ce qu'on fait sur... Enfin, voilà, c'est aussi tout ça qui se pose et je pense que ça résout... Enfin, ça résout une infime partie du problème, cette annonce. Voilà.
Charles.
Non, je pense que Didier a bien résumé le sujet. C'est pas, malheureusement, avec les transports en commun à l'intérieur des villes qu'on va résoudre le problème du coût des carburants, puisque ceux pour qui le coût des carburants est un problème sont pas ceux qui se déplacent à l'intérieur d'une ville, ni même à l'intérieur d'une agglomération, je pense. Donc, c'est vraiment les gens à la campagne ou les gens qui ont vraiment de la route à faire pour travailler, etc. Donc, c'est pas tellement le sujet. Pourquoi pas le faire? Mais je suis sceptique sur l'intérêt de la chose. Après qu'il faille développer davantage les transports en commun, y compris à la campagne, ça me paraît en revanche plus fondamental comme sujet, là où ça a plutôt tendance à régresser d'ailleurs.
Oui.
Parce que vous comprenez, c'est tellement difficile.
Comment les lignes TER.
Voilà, vu qu'on trouve personne pour travailler, on est obligé de supprimer des services.
Il y a quelques locaux qui mettent en place des aires de covoiturage et qui organisent le covoiturage. Et je trouve que ça, c'est un bon système parce que en milieu rural, tout le monde, on peut faire une heure de route pour aller bosser, quoi. Et tout ce qui est autour du covoiturage, je trouve que c'est quand même une façon de limiter les coûts, quoi.
Je pense qu'il faudra quand même, à un moment donné, baisser les taxes. J'allais dire ces putains de taxes, mais je me suis retenu. Il faudra baisser ces taxes que le gouvernement se refuse à baisser, alors que beaucoup de pays en Europe commencent à le faire. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'aidera pas vraiment les gens face à cette crise. Je pense que le rôle de l'État, pour le coup, à mon sens, n'est pas de donner de l'argent, mais en revanche, arrêter d'en ponctionner, en ponctionner un peu moins, c'est quand même une piste.
C'est une façon d'en donner.
Et honnête, oui, bah non. Je trouve que c'est quand même pas pareil.
Non. Joëlle.
Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Après, il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. C'est ça le truc, c'est que le gouvernement se refuse à enlever ses taxes.
Il va y avoir de nouvelles aides annoncées sans doute cette semaine.
Mais on veut pas des aides. Mais Charles a tout dit. On veut pas en fait qu'on nous donne. On veut qu'on arrête d'en prendre. Donc ça, le gouvernement comprend toujours pas la logique. Je pense qu'il a l'impression que c'est la même chose, mais ça n'est absolument pas la même chose puisque pour nous donner des aides, très souvent il faut justifier de ci ou de ça, alors que quand tu n'en prends pas, bah t'es libre et t'es tranquille avec ton argent.
Ce sont toujours les mêmes qui sont aidés. Aussi.
Voilà, exactement. Donc il faut bien faire quelque chose. Si ça peut aider 2-3 personnes, pourquoi pas. Moi, ce que j'observe, c'est que avant cette crise de carburant, il y avait quand même déjà pas mal de faillites d'entreprises. Il y avait des pénuries de produits alimentaires dans les magasins. J'ai remarqué là une nouvelle pénurie qui est la sardine. Pourquoi j'ai remarqué ça?
Ah bon?
Oui, complètement. Il y a des
boîtes
pénuries
de sardines.
Il y a des pénuries de sardines.
Tu aimes bien les sardines?
Et oui, j'aime bien.
Je mange jusqu'à 60 par jour.
Non, parce que j'en mange, oui, effectivement.
Au petit déjeuner, c'est très bon les sardines.
J'en mange à midi. J'en mange à midi.
J'adore
ça. Et j'étais tranquille, c'est-à-dire quand j'allais en, il y avait toujours les sardines.
Bien sûr.
Là, moi, dans mon supermarché, il y en avait ce week-end.
J'avais les sardines. Il faut aller les pêcher. Pour aller les pêcher, il faut mettre du kérosène dans le bateau.
La sardine.
Tu verras dans plusieurs magasins maintenant que tu observes une pénurie de sardines. Pourquoi? Parce que c'est une source de protéines, comme les œufs, et que c'est pas cher.
Voilà.
Voilà. Et donc les gens se rabattent sur des produits de substitution entre guillemets qui permettent d'avoir des apports nutritionnels sans sortir très cher, enfin sans débourser beaucoup d'argent. Donc je suis désolée, il y a des gens qui ont dit, j'ai vu un article d'ailleurs sur ça où on nous a dit que c'était à cause de la tendance TikTok. Donc il y avait des influenceurs qui montraient comment faire des recettes avec la sardine. Moi je dis que c'est pas la tendance TikTok, je dis que c'est un problème de pouvoir d'achat et que la sardine c'est que ce n'est qu'un symptôme comme les œufs.
Quel est le rapport avec les transports communs à Laval?
Non mais c'est pour dire que si on peut aider des gens sur quelque chose, ça rigole.
Non mais dans un bus on peut être comme des sardines.
Mais non mais vous aussi.
Non, je vois le rapport, mais sinon.
Non mais je veux dire, il faut bien aider les gens quelque part parce que tout le monde trinque, les commerçants trinquent, t'as des commerçants qui ferment, les gens peuvent plus consommer. Donc il y a un moment quand il y a un maire qui fait quelque chose, bah oui ça a l'air de rien, mais
c'est de l'argent public.
Oui.
Il dit pas tout le maire, il nous dit 150 000, il nous dit pas qu'il va être obligé d'augmenter les impôts locaux et on verra. On verra dans un an ou deux. Je crois que Laval, c'est une ville où on a augmenté les impôts.
Quelle étiquette le maire de Laval?
C'est une politique de gribouille, tu sais très bien Didier.
Bah on va aller du côté de la Mayenne, retrouver Magali. Bonjour Magali.
Et pourquoi il y en a qui le font gratuit?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui habitez juste à côté de Laval? Alors ça, c'est utile, ça peut vous pousser à laisser la voiture, dites-moi.
Écoutez, pas du tout, parce qu'en fait, sachez que le maire, en fait, il vient juste d'être réélu, donc il fête sa victoire là. Et il est le maire aussi, il est le président de la Laval Agglomération, donc 50 centimes, moi je viens, mais le problème c'est que tous les gens ils ont déjà leur abonnement. Et il y a des problèmes. Il vient de refaire une place en centre-ville qui a coûté plusieurs millions d'euros. Ah. Résultat du compte, il n'y a pas plus de monde qu'avant dans les commerces, c'est le désert de Gobi, enfin les commerces ferment les uns après les autres. Et depuis le Covid, vous savez tous que les gens ont pris leurs habitudes. Enfin, moi, ça va pas me pousser à aller plus en centre-ville. Déjà, suite à l'augmentation du prix du carburant, j'ai plus de voiture. Enfin, j'ai très choix de pas prendre la deuxième voiture parce que c'est trop énorme. Ouais. J'habite à 20 minutes du centre-ville de Laval. J'ai pas plus de bus qu'avant. Ça va pas me décider.
Donc, c'est une question d'offre aussi pour vous laisser. Laisser la voiture au garage.
On est un pays, on est un pays très, très, où il y a beaucoup d'agriculteurs et ils souffrent énormément en ce moment suite au réchauffement climatique, enfin tout ce qui se passe en ce moment.
C'est-à-dire que vous êtes du côté de Loiron-Ruyé, si je vois bien votre fiche, hein, c'est ça. Et donc vous n'avez les transports en commun de la métropole ne viennent pas jusqu'à chez vous venir ensuite jusqu'à Laval.
Alors vous allez rire, il y en a, mais il y a une grève en ce moment parce que les transports en commun ont été repris. Ça, il le dit pas. Il y a une grève depuis 10
c'est
jours.
C'est gratuit, mais on peut pas les prendre, il y a personne. Il n'y a pas de conducteur.
Il y a une grève parce que les transports en commun, en fait, les TUL de Laval ont été repris par la RATP, que vous connaissez certainement.
Ouais. Ça, oui.
Et donc, il y a une grève depuis une dizaine de jours.
Ah bon. Ah oui, alors donc c'est marrant parce qu'ils communiquent sur la baisse d'un tarif de bus qu'on peut pas prendre.
C'est l'Union soviétique, tu sais, c'est gratuit, mais ça marche pas.
Non, mais en même temps. Je trouve que où je peux te rejoindre, Olivier, c'est que le transport en commun dans une ville, c'est un dossier global. On peut pas dire je le rends gratuit ou je le baisse là pendant quelques mois machin pour aider les gens. Si il y a pas un minimum de parking au bout des lignes pour que les gens qui arrivent d'ailleurs de la ville puissent se garer et prendre les transports en commun.
Magali.
Je veux dire des villes qui l'ont bien réfléchi, il y en a pas.
C'est le terme de gratuité qui est mensongeux.
Magali, moi
ça.
Je voulais justement depuis Magali, depuis la hausse des transports, depuis la hausse pardon des prix du carburant, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Comment vous vous êtes adapté?
Bah écoutez, je vous ai dit, j'avais une voiture en leasing, mon contrat est arrivé. C'est arrêté au mois de mars.
Ouais.
J'ai pas repris de voiture suite à ça parce que j'attends de voir.
Vous arrivez à vous en passer?
Bah écoutez, on a quelques bus qui passent avant la grève. Voilà. Donc je me débrouille à droite à gauche avec des amis et tout, mais c'est une galère.
C'est compliqué, effectivement.
C'est intéressant ce qu'a dit Magali, c'est-à-dire que moi je veux bien les bus partout, mais il faut aussi assurer aux gens qu'il n'y aura pas des grèves tous les 4 matins, qu'il n'y aura pas des retards, que ça roulera, qu'il n'y aura pas, pour X raisons, le principe de précaution, il n'y a plus de bus parce qu'il y a un peu de vent.
De l'année.
Voilà, c'est ça aussi le problème, c'est que quand tu dépends les transports en commun, t'es quand même un peu toujours dans
Magali,
dans
on va aller en Charente-Maritime retrouver Nicolas qui est chef de produit. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous, ce qui vous agace, c'est quand on parle notamment de gratuité des transports. Pourquoi?
Bah parce que rien n'est gratuit. Il y a quelqu'un qui paye.
C'est Nicolas qui paye.
Ça va être répercuté sur les impôts. Et le problème, c'est pour la personne qui, lui, ne peut pas faire autrement que prendre sa voiture, c'est la double peine. Parce que lui, il va avoir ses impôts augmentés pour payer le transport des uns. Et il va être obligé, tous les matins, de prendre sa voiture. Il n'aura pas le choix, lui.
Mais Nicolas, vous, du côté de La Rochelle, vous avez une bonne offre, vous, au niveau des transports en commun ?
Transport en commun, oui, ça va. Alors après, moi, j'habite à l'extérieur de La Rochelle, dans un petit village. Là, par contre, c'est 2 ou 3 passages par jour, je sais pas. Enfin, il y a un bus le matin pour amener les enfants à l'école, ça, c'est sûr.
Ouais.
Un bus qui les ramène le soir, on doit avoir un bus le midi.
Mais Nicolas, du coup, comment vous faites, vous ? Parce que vous ne pouvez pas vous passer de votre voiture, alors ?
Bah, moi, je suis en électrique, donc je m'en fous un peu, mais
nous, on a deux. Vous êtes passé quand à l'électrique ?
Pour la voiture de ma femme, il y a plus de 5 ans maintenant, 5-6 ans, et pour la mienne, en 2024.
Et vous en êtes content, vous en êtes satisfait, ouais.
Ah, moi, j'en suis ravi. Je remettrai plus jamais mon cul dans une thermique, ça, c'est sûr.
Du coup, en ce moment, vous êtes tranquille, cette crise des carburants, ça vous touche pas?
Bah, moi, ça me touche pas, non, mais bon, après.
Vous avez quelle marque de voiture?
Alors, ma femme a une MG, moi, j'ai une Tesla.
Vous avez chinois et américain, quoi, en fait, c'est ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas passé aux français?
Mais il n'y a pas.
Parce que les français, techniquement, R5. Ils sont à la ramasse, on va dire. Hein. Et les allemands sont beaucoup trop chers. Donc, en rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux que chinois et Tesla aujourd'hui.
Et vous avez une prise chez vous?
Alors, j'ai fait poser une prise, oui, parce qu'avec 2 véhicules, il faut pouvoir charger un véhicule la nuit. Enfin. Ouais. Ça se faisait, hein, sur une petite prise basique quand on n'avait qu'une seule voiture, mais avec deux
vous
voitures.
Vous êtes dans un pavillon?
Je suis dans un pavillon.
Ouais, ça aide aussi.
Et vous avez dit, avec la MG, vous avez une autonomie de combien? Vous pouvez rouler combien dans la journée? Dites-moi.
Bah, je sais pas, ça c'est ma femme qui doit la charger une fois par semaine pour aller au boulot. Pas plus. Ouais. Et là, j'ai regardé hier parce qu'elle va à Paris le week-end prochain voir ses copines. C'est 2 arrêts recharge, c'est 30 minutes d'arrêt recharge pour aller à Paris.
Oui, d'accord.
En deux fois 15 minutes, quoi.
Deux fois 15, le temps de s'arrêter, de prendre un petit café, de faire une pause et repartir, quoi, en fait, c'est ça.
C'est ça. Oui, mais et la Tesla, moi, je traverse la France en long, en large, en travers. Ça m'a changé la vie par rapport à une thermique, hein.
Ouais, bon, donc vous reprendrez pas la thermique. Nicolas, merci de votre appel, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne route, Nicolas. Merci d'avoir été dans les GG. Alors, crise énergétique, Nicolas dit, il y a rien qui est gratuit, hein, y a toujours quelqu'un qui paye. Lui, il a préféré faire le choix il y a 5 ans de l'électrique, soit pour lui ou pour son épouse. Crise énergétique, est-ce qu'on doit passer au transport gratuit? Oui, non. Vous dites non à 60%, oui. À 40.
Mais c'est partagé quand même.
Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. Et tout à l'heure, à 10h, on reparlera de Mathéo. Vous savez, ce gamin de 9 ans du club d'Auchy-les-Mines dans le Pas-de-Calais qui s'est fait agresser lors d'un match de foot, hein, à la fin du match de foot, par 5 enfants de l'équipe adverse de Creil en région parisienne. Ben, ils l'ont mis au sol, ils l'ont quand même mis des coups de pied dans la tête à Mathéo. Et son père est assez furieux que le club n'ait pas réagi plus vite. Alors, du côté du club de Creil, on a présenté des excuses. Charles nous dit, c'est vraiment le typique l'ensauvagement de notre société. Vous venez en discuter avec
nous. Notre jeunesse.
Au 32-16. Mais là, ils ont 9 ans, 10 ans, Charles. 9, 10 ans. Allez,
c'est fini.
En attendant, c'est long, on s'en fout, on s'en fout pas. Il est 10h-20.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les GG, attention, Édouard Philippe sort de l'ombre. Ça y est, 2027 est lancé. Le maire du Havre mise sur une campagne innovante. Et oui, il va s'inviter chez vous. Le candidat à la présidentielle organisera le 25 juin la plus grande réunion d'appartements jamais organisée dans le pays. Bon, en fait, rien d'extraordinaire. Hein. Il s'agira d'une simple réunion en visio. En direct, donc, dans 1000 foyers, aucune prouesse technologique. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, ma chère Joël?
On s'en fout pas.
Ok. Charles?
On ne s'en fout pas.
Didier?
Je passe mon tour.
C'est peut-être un petit peu survendu, effectivement, mais Édouard Philippe mise plus, en tout cas, sur ce dispositif pour imprimer auprès des Français, plutôt que les réseaux sociaux, ce qui le distinguerait, du coup, de Jordan Bardella ou encore Gabriel Attal, très présents, eux, sur Instagram et TikTok. Mon cher Charles.
Mais ils ont raison. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est.
C'est
vaut mieux éviter quand tu fais de la politique.
Et reprendre un concept de VGE.
Ce serait con d'investir le champ des réseaux sociaux. Les gens regardent pas les réseaux sociaux.
Il a fait sa campagne municipale comme ça et ça a marché.
Bon, peut-être moi, non, mais écoutez, j'entendais ce matin Christophe Béchu, le maire d'Angers, qui faisait part de son enthousiasme quant à cette réunion en Zoom où Édouard Philippe apparaîtrait pour répondre aux questions des gens. J'avoue, moi, trouver que tout ça manque encore un peu de souffle. Et sans vouloir faire de la psychologie à deux balles, j'ai quand même toujours l'impression, j'ai écouté des extraits du discours d'Édouard Philippe, j'ai toujours l'impression que ça vient de lui, si vous voulez, que c'est lui qui...
Qui n'incarne pas
assez. Je sais pas comment vous dire, on sent que ça le gonfle un peu d'aller là-dedans. Voilà. Moi, c'est ce que je sens. Je pense qu'il est encore dans le refus d'obstacles et il a toujours pas vraiment passé le cap de se dire j'y vais, je suis candidat, je serai peut-être élu, etc. Donc c'est pour ça que tout ça me paraît un peu poussif.
Et là, ça démarre lentement. C'est une campagne un peu de diesel et ce sera le 5 juillet, le grand meeting parisien d'Edouard Philippe.
Pour du diesel, c'est du diesel. Hein. Non, mais c'est pas mal ce star à domicile. Les gens qui viennent, la star qui s'invite chez toi, mais en visio. Ça fait vachement moderne, ça fait 1999. C'est vrai que la visio, on s'y attendait pas. C'est une technologie qu'on n'avait jamais encore expérimentée.
C'est des mecs qui sont imprégnés par le Covid qui font ça.
C'est dingue, je veux dire... Alors, moi, ce qui
peut-être qu'il a des infos sur l'antivirus qu'on n'a pas.
Oui, c'est possible, absolument. Mais,
alors, premièrement,
il va faire campagne comme Joe Biden depuis
son sol. Premièrement, je me souviens qu'Edouard Philippe, il faisait des lives Facebook quand il était Premier ministre et qui était pas mal. Il était plutôt bon, c'était interactif, il était à l'aise, etc. Mais je veux dire, ça s'arrête là. Je ne vais pas m'inscrire en tant que foyer. Je ne sais pas comment il faut faire d'ailleurs pour postuler à ce truc. M'inscrire pour regarder.
Dans le fichier des gens d'horizon.
Ah voilà,
c'est ça. Minitel,
à mon avis, ça doit être
les annonces,
ça doit être les adhérents.
Ce que je comprends pas, Joël, c'est que le principe d'une réunion d'appartement, c'est justement d'aller voir les gens, d'aller chez eux, de créer une espèce de proximité, de comprendre un peu comment ils vivent. Là, c'est l'inverse, puisque en fait, chacun sera chez soi. En fait,
non, je crois et lui, sera chez dans son bureau. Ils ont des militants qui vont se déplacer chez les gens. N'importe. Donc, t'auras la joie de voir arriver Pierre-Yves Bournazel, Christophe Péchu,
Arnaud Robinet,
Gilles Boyer,
Jérémy Patrier-Létus, Gilles Boyer. Ils vont venir chez toi. Là, tu pourras déboucher un petit Porto.
Crément.
Trois curly. Et t'as Édouard Philippe en visio.
Mais lui, il ne se déplace pas, donc il ne va pas voir les gens.
Une réunion Tupperware.
Un peu mood Star Wars.
Quoi. Bon, les GG. Didier, tu vas pas t'en foutre cette fois. Un collectif revendique le sabotage de deux bassines mercredi dernier dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Didier, tu t'en fous ou pas ?
Non, pas du tout.
Charles ?
On s'en fout pas.
Joël ?
On s'en fout.
Dégradation commise par l'Amicale pour le débâchage permanent du Poitou, c'est le nom de ce collectif. Le préfet des Deux-Sèvres condamne des agissements intolérables contre ces installations agricoles. Mon cher Didier.
Eh ben, je propose qu'on les mette en tôle puisqu'ils ont revendiqué. Donc on doit pouvoir les trouver, les connaître et qu'on les foute en tôle parce que c'est aujourd'hui criminel sur des bassines existantes d'aller les percer. Ça coûte horriblement cher. Et si on doit faire le débat de l'eau en France, moi, je vais le poser ainsi, quoi. Il y a en France entre 350 et 400 data centers. Un data center, c'est la consommation en eau d'une ville de 50 000 habitants, quoi. Donc, que les anti-bassines aillent se battre contre les data centers et nous laissent tranquilles pour irriguer, pour leur donner à bouffer, quoi. Ce travail-là, c'est du travail d'ultra-intégriste et je ils pense que dit, comme ils ont revendiqué, il faut les foutre en tôle, ces mecs-là, quoi.
Ils ont dit, le sabotage, ce sera notre combat et c'est comme ça que nous agirons.
Et ben, c'est des terroristes et il faut les traiter comme des terroristes.
C'est ce qu'on appelait l'éco-terrorisme. Enfin, Gérard Darmanin avait appelé l'éco-terrorisme.
Darmanin, il nous a joué de la flûte. Hein.
C'est-à-dire
les soulèvements de la terre qui étaient à l'origine de Sainte-Soline.
Mais il a voulu les dissoudre.
Il a voulu.
C'est le conseil
il a voulu.
C'est
mais le conseil ils ne sont
d'état.
Pas dissous.
Non, mais c'est le
ils
conseil
sont
d'état.
Encore actifs aujourd'hui.
Non, mais c'est le conseil
mais
d'état.
Mais attends, en soi, il a des coronesses et il impose au conseil d'état dissoudre ces gens-là.
Non, mais alors.
C'est trop facile, ça.
Est-ce que tu peux faire un petit point de droit au
Non, mais je le connais, le droit. C'est trop facile de balancer des idées en l'air en sachant très bien que le conseil d'état va retoquer le truc et tout ça.
C'est vrai, parce qu'il y a le Conseil d'État, par exemple, a validé la dissolution de la Jeune Garde de Raphaël Arnault, le député insoumis. Donc, c'est pas vrai qu'à chaque fois le Conseil d'État dit non.
Mais sur les soulèvements de la Terre, ça n'avait pas été beaucoup. Qu'on change les gens du Conseil d'État.
En tout cas, moi, je suis d'accord avec Didier. Je pense que ces gens sont des terroristes et doivent être traités comme tels. Non, mais c'est un écologisme d'un autre âge et qui, en plus... me paraît même contraire au bon sens. On sait qu'il y a des sécheresses, on sait qu'il faut faire quelque chose.
On sait qu'il faut stocker l'eau.
Il a énormément plu au mois d'avril.
D'ailleurs, dans un autre, peut-être qu'on en aura l'occasion d'en reparler, mais moi je comprends pas qu'on n'ait pas stocké de l'essence par ailleurs.
On a des stocks stratégiques.
Oui, mais on a des réserves 90 stratégiques. Jours, un petit peu moins. En vrai, je trouve que la question se pose de... dans les périodes où le cours du baril est bas, de stocker de l'essence. Mais c'est un,
chez
autre,
soi.
C'est un autre sujet. Non, en France, de constituer des réserves pour les gens.
On va avoir plein de jerrycans chez soi.
Des réserves pour les gens. Non, mais quant à ces bassines,
avec
oui,
des masques.
Il y a des sécheresses énormes. Il faut arrêter les conneries. Et je pense qu'effectivement, il faut sévir assez durement contre ces gens.
On enchaîne, Anaïs.
Et puis la ville de Nantes, les GG, qui se dote d'un élu délégué au retour du train de nuit. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On ne s'en fout pas.
Joël ?
On
s'en fout pas. Didier ?
On ne s'en fout pas, c'est important.
Bon, la mairie veut mettre à l'agenda le développement donc, de ce transport nocturne dans l'Ouest, nous apprend le Figaro. Si ce service revient dans certaines régions françaises, la Bretagne en est dépourvue, en tout cas depuis 2010. Alors, le conseiller municipal Simon Citeau n'est plus seulement en charge du cyclotourisme et des trains du quotidien. Le voici désormais délégué au retour du train de nuit. C'est important, Didier, tu dis ça.
Alors, le train de nuit en soi, c'est important pour une partie de la population qui a pas le TGV pour monter à Paris et qui prend le train de nuit pour faire ce qu'il a à faire à Paris. Après, derrière ça, Nantes est un laboratoire de conneries en termes de tout ce que tu peux imaginer et que on délègue un élu municipal au retour. Enfin, à quoi ça va servir?
C'est pareil que
l'adjoint à l'agriculture à la mairie de Paris. Enfin, je veux dire, l'histoire, on se demande à quoi ça sert, si ce n'est que c'est un titre. Mais sur le fond, le train de nuit avait une vraie utilité pour les gens de là-bas.
Il faut simplement le sécuriser, le train de nuit. Hein.
Aussi.
Bah oui, pour notamment les jeunes femmes. Si on veut que les jeunes femmes rentrent de soirée en prenant un train de nuit, il faut que, alors je sais pas si ce délégué aura la compétence pour ça, mais enfin c'est surtout une question de sécurité.
C'est surtout une discussion entre les régions et la SNCF, le train de nuit. C'est d'abord ça.
Joël.
Non, je trouve que je suis comme Didier, moi, j'aime bien le train de nuit. Je l'ai pris quand j'étais plus jeune. Notamment pour descendre dans le sud, je le prenais, c'était moins cher déjà, beaucoup moins cher.
On a un peu réhabilité.
Ouais, et je l'ai pris plusieurs fois, et je trouve que c'est une solution douce quelque part. Nous sommes au niveau du prix, mais aussi au niveau du voyage quand c'est sécurisé, quand c'est confortable. Ouais, j'arrivais à dormir. Après,
bon, tourne,
quand t'as 22 ans, tu sais, tu dors même debout. Hein. Je veux dire, c'est pas comme maintenant. J'ai des maux de dos.
Donc t'avais ta petite boîte de sardines.
Tu
l'ouvrais.
Entre copines, on s'en foutait.
C'était sympa. C'est intéressant, c'est dommage, tu l'as fait en télé. Mais est-ce que vous avez vu comment Olivier ouvre aujourd'hui
Il
l'ouvre encore avec sa bouteille.
Avec l'ouvre-boîte qui tourne.
Glisser la pile en coche et on tournait.
Il n'y a plus d'encoche sur les boîtes.
C'est fini maintenant.
Je sais bien. C'est comme une canette maintenant. On faisait ça à la maison.
Bien sûr. Olivier, quand on te laissait ouvrir la boîte de sardines.
Olivier est un boueur, mais ça, on le savait.
Je ne vais pas m'excuser.
Ceci dit, comme on adore en France les titres ronflants, donc dès les au train de nuit.
Ça, on rajoute une ligne. Alors, sur la carte de visite.
La population demande moins et ils en rajoutent. Ils rajoutent des titres, des nouveaux élus.
Vous avez vu à Paris, les GG, il y a un délégué au design et à l'esthétique. Et toujours pas d'adjoint au patrimoine.
On pourrait commencer par un délégué aux poubelles qui ressemble plus à rien.
Ah bon, mais si, il y a une belle expo.
Conseille d'aller voir Place de la Concorde, qui est une des plus belles places de Paris. Ils l'ont.
Il y a l'horrible expo d'Yann Arthus-Bérez.
Non, mais même au-delà de cette expo, c'est n'importe quoi cette place.
C'est le vivre ensemble, ça.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va s'intéresser à ce petit match de football amateur. Ça s'est passé du côté du Pas-de-Calais. Et c'est Mathéo, un joueur de 9 ans du club d'Auchy-les-Mines qui a été agressé par 5 enfants de l'équipe adverse de Creil. Alors que le match était terminé, pas savoir ce qui s'est passé, ils l'ont mis au sol, ils ont mis des coups de pied dans la tête, il a quand même dû être évacué par les pompiers. Bon, ça va mieux, mais il a des séquelles psychologiques. Le père est furieux. Est-ce que c'est le symptôme de l'ensauvagement? 32-16 pour en parler avec nous.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.